Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin, et aujourd'hui, pour le dernier épisode du Collimateur de la saison, j'ai le plaisir de recevoir le vice-amiral d'escadre Marin Gillier pour nous parler de commandos, et notamment des commandos marines, qui ont pris un coup de projecteur dramatique en avril dernier, lors de la mort en mission de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, deux membres du commando Hubert lors d'une opération de libération d'otages au Burkina Faso. Alors amiral, tout d'abord bienvenue et merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Je voudrais simplement dire que j'aimerais que cette émission puisse justement se décaler un peu des gros titres et du côté très romantique des commandos, même si évidemment ça fait partie de l'équation, pour peut-être donner un peu plus de contexte et de sens à tout ça que ce qu'on retrouve régulièrement dans les documentaires ou les reportages télévisés. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais assez que ça fasse un peu comme l'émission qu'on avait faite avec Paul Charon, sur le renseignement, où on essayait de passer au-delà de la surface pour voir ce qu'est vraiment le sens et le quotidien de ces types de services.
C'est une approche qui me plaît bien. J'aime beaucoup le mot sens, qui a deux acceptions. Le sens, c'est la signification, mais c'est également la direction, ce qui, pour un chef militaire, est important.
Alors, amiral, puisque vous allez être un peu en quelque sorte notre guide dans cette galaxie très particulière, vous avez fait l'essentiel de votre carrière, puisque vous avez été longtemps dans la direction du COS, donc le commandement des opérations spéciales, avant de devenir Alfusco, c'est-à-dire l'amiral qui dirige les fusiliers marins et les commandos. J'aimerais vous commencer par vous demander simplement ce qui vous a attiré dans cette filière. Vous l'avez choisi forcément à l'école navale, donc quand vous y étiez à la fin des années 70. Mais une manière de vous poser la question, c'est serait de vous demander si vous êtes entré à Naval pour devenir commando, ou si c'est à Naval que vous avez eu presque cette vocation, on pourrait dire.
Je suis entré à l'école navale par le plus grand des hasards. Mes parents m'avaient mis pensionnaire dans un très bon lycée dès la sixième, en me disant « tu feras maths sup, maths spé, une école d'ingénieur ». Et donc arrivé en maths spé au moment de m'inscrire au concours, je me suis dit que j'étais bon en maths et en physique, mais que ça ne m'intéressait pas. Et je me suis souvenu que 3 mois avant environ, il y avait un groupe de jeunes hommes qui étaient venus, ils avaient une jolie casquette blanche, ils m'avaient fait rêver. Je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire à ça, qu'est-ce que c'est? Je me suis renseigné, l'école navale. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'y suis rentré, j'ai trouvé un cadre où je me suis épanoui. Et assez rapidement, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à faire là, ici? Alors on m'a expliqué, l'école navale, on vous apprend 3 choses, à être un ingénieur, à être un militaire, et puis je ne sais plus quelle était la troisième, à être un marin, bien entendu,
c'est utile.
Voilà, alors être un ingénieur, ça m'était égal, être un marin, ça m'était égal, moi je voulais être un combattant. Et donc j'ai demandé, qu'est-ce qui est le plus dur? On m'a dit, c'est les commandos marines et les nageurs de combat, et j'ai dit, sans aucune humilité, eh ben moi, c'est ça que je ferai.
D'accord, c'est plutôt réussi du coup.
Oui, alors à vrai dire, avec 40 ans de recul, j'estime qu'on réussit aussi bien quand on est dans les sous-marins, quand on est pilote d'aéronautique navale ou quand on travaille dans les PTT. Le but de sa vie, c'est d'être utile, de s'épanouir, d'aider ses proches à s'épanouir. Et de ce point de vue, j'avais besoin, moi, d'enjeux majeurs. D'autres n'en ont pas besoin, mais ce sont des personnes tout aussi bien, à mon avis.
Oui, bien sûr, mais on reviendra, c'est intéressant, sur cette question du rôle et de la fonction des commandos par rapport au reste des forces. Et du coup, est-ce que le métier a été tel que vous l'attendiez? Comment est-ce que vous avez construit cette fonction dans votre tête à l'époque où on vous apprenait ce que c'était? Et une fois que vous y étiez, comment ça s'est passé?
Alors, à l'école navale, j'étais dans tous les tout premiers de ma promotion et on m'a expliqué que en cette époque où les fusiliers marins et autres commandos marines étaient qualifiés de plantes vertes. Pour faire une belle carrière, il fallait être sous-marinier et chasser les sous-marins Victor III soviétiques. Et donc j'ai dit, bah, si c'est comme ça, je ne sortirai pas premier de l'école navale. Et je suis sorti un petit peu plus loin, sciemment. Au cours de la Jeanne d'Arc, j'étais convoqué par le directeur des études qui m'a dit « Écoutez, Gillier, on n'a pas assez de volontaires pour aller dans l'aéronautique navale comme pilote. Vous cochez toutes les cases pour ça, je vais vous en envoyer. » J'ai répondu « Non, non, commandant, non, non. Moi, je serai commando marine, et si vous m'envoyez au cours du pilote, au premier posé, au moment où il faut tirer le manche, je le pousserai très fort, et l'instructeur aura tellement peur, je suis sûr qu'il le tirera encore plus, mais qu'on s'en sortira vivant, mais il aura tellement peur qu'il ne voudra plus voler avec moi. Et quand j'aurai fait ça avec tous les instructeurs, on me virera de l'aéro, je pourrai aller dans les commandos. » Il m'a dit « Pauvre con, sortez. » Et je suis allé dans les commandos.
C'est un beau début de carrière. Et alors du coup, de toute évidence, vous aviez une idée très précise, une envie, un désir, quoi. Et justement, quand vous y êtes retrouvé, ça a correspondu au désir que vous aviez ?
Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait, de ce que c'était, comment ça fonctionnait.
Ah, c'était juste le nom.
En revanche, le nom commando me faisait rêver, mais surtout, comme je vous le disais d'entrée de jeu, mes parents, dès l'âge de 10 ans, m'ont mis sur des rails. Et quand je suis rentré à l'école navale, à 19 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai posé un acte libre, j'ai choisi moi-même ce que j'allais faire. Et j'avais une soif de liberté et une soif aussi de déplacer les montagnes. Une soif, c'est pas très humble ce que je vais dire, mais d'écrire l'histoire et non pas de la lire. Bon. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce dont on m'avait dit que c'était ce qu'il y avait de plus difficile dans la marine. Et c'est ça qui m'a guidé. J'ai eu la chance, après la Jeanne d'Arc, de naviguer pendant 2 ans comme second d'un patrouilleur dans le Pacifique Sud. C'était merveilleux, j'ai appris des tas de choses. Mais j'aspirais à devenir commando, et quand j'y suis arrivé 2 ans après la fin de la Jeanne d'Arc, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un stage commando qui était très dur, physiquement, psychologiquement. Mais du coup, j'avais ce que j'avais demandé, et donc j'étais heureux, j'étais épanoui, et ça a très bien marché.
D'accord, alors maintenant, faut peut-être essayer de passer peut-être au-delà de l'écran, enfin de ce premier stade du mot de commando, puisque des commandos, il y en a beaucoup, surtout les commandos marines. Il faut préciser que donc il n'y a pas un commando, il y en a 7 forces de commando marines, donc Hubert, Jaubert, Trépel, Montfort, Kieffer, Ponchardier et Penfentenio. Alors peut-être expliquez-nous ce que c'est, qui ils sont, parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous des spécialités, ils ont tous des vocations différentes. Est-ce que vous pourriez nous guider, disons, dans ce panorama de tous ces commandos marines, de ces 7 forces ?
Alors traditionnellement, il y avait jusqu'à il y a 10 ans environ, 5 commandos marines. Il y en avait 4 à l'Orient, Jaubert, Trépel, de Penfentenio et de Montfort, qui avaient des missions commando en général et quelques spécialisations, la reconnaissance, le renseignement, l'appui, des choses comme ça, bien sûr plus spécialement orienté vers le domaine maritime ou aquatique, et puis le commando de nageur de combat avec toutes ses capacités, plus une majeure, celle de l'action subaquatique, donc au commando Hubert, à Saint-Mandrier, au sud de Toulon. Pendant des décennies, ces 5 commandos marines ont permis de répondre aux besoins opérationnels, aussi bien de la présidence de la République que de l'état-major des armées. Et puis, il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'autre chose. Et donc, il a été décidé de créer un nouveau commando. Initialement, l'idée était d'augmenter numériquement le nombre de commandos marines. Et donc, il s'agissait de créer une nouvelle unité d'environ 80 commandos. Mais en fait, dans les commandos déjà en ligne, les 5 commandos, on avait des trous. Car dans les forces spéciales en général et les commandos marines en particulier, on préfère avoir un trou plutôt qu'une personne qui ne correspond pas à tous les critères. On ne veut pas qu'en opération, il puisse y avoir un geste maladroit, une mauvaise décision, etc. Ça arrive, mais on essaye de limiter ce risque. Et donc, l'idée de recruter plus de monde alors qu'on n'arrivait pas à remplir les lignes nous est apparue un petit peu hors de propos. Et du coup, avec l'état-major d'Al Fusco, où j'étais à l'époque, on a réfléchi à tout ce qui nous avait manqué dans les opérations dans les 5 années précédentes, quelles étaient les capacités, les talents qu'on aurait pu avoir, faire fructifier pour aider à remporter la victoire plus facilement. Et on a réfléchi également aux grands exercices qu'on avait menés dans les 10 dernières années, dans le même esprit. Et donc là, on s'est dit, il faut revenir aux origines. Les commandos marines ont été créés en 1942 en Grande-Bretagne, non pas avec des fusiliers marins, mais avec des marins venant de toutes les spécialités de la marine, et on les a formés comme commandos, et on s'efforçait d'utiliser leurs qualités, leurs compétences de marins en général pour les différentes missions. Et là, c'est la même chose. On s'est dit, tiens, plutôt que de risquer une équipe de commandos pour rentrer dans une maison où on sait qu'il y a des pièges, si on envoyait plutôt un chien, donc on va prendre des maîtres chiens. Tiens, aujourd'hui, plutôt que faire du hard kill et d'envoyer une balle de 308 dans le cœur de quelqu'un, on peut faire du soft kill et le discréditer par des moyens de communication informatique, etc. Évidemment, d'un point de vue éthique, c'est mieux si on peut éviter de tuer la personne. Donc, on va recruter des personnes qui sont capables de faire ça.
Et donc ça, c'est le commando qui fait.
Et donc, on a imaginé comme ça de nouveaux modes d'action. Je ne vais pas vous donner le détail de tout ça.
Je n'allais pas vous les demander.
Et on a créé un nouveau commando. Voilà. Et il faut aller lui donner un nom. Alors, bien sûr, il y avait de nombreuses propositions. Et je me suis dit que finalement, puisqu'on en était revenu aux origines, autant donner le nom de l'officier qui a créé les premiers commandos marines, à l'époque, le commandant Kieffer. Et quand j'ai proposé ça à l'état-major de la marine...
Donc on va juste préciser que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à l'approche du débarquement, Philippe Kieffer qui était en Angleterre et qui a pris la tête de ce premier groupe de Français libres qui ont débarqué sur les plages de Normandie.
Exactement. Alors qui n'ont pas été créés uniquement pour débarquer en Normandie. Le but de toutes les forces spéciales, c'était également d'être parachutés derrière les lignes ennemies pour désorganiser, créer la peur, etc. Et ils ont eu l'occasion de faire un certain nombre de reconnaissances sur les côtes françaises, certaines brillantes, d'autres qui se sont terminées de façon un peu plus dramatique. Et donc... bien sûr, le moment fort, c'est le 6 juin 1944 et le débarquement des 177 commandos à Ouistreham. On m'a demandé de proposer un nom. J'ai proposé celui de Philippe Kieffer. Et à Paris, on m'a répondu « Ah ben non, dans la marine, on ne donne jamais à une unité que le nom d'un officier ou d'un officier marinier ou d'un quartier maître qui sont morts au combat. Et donc, on ne peut pas donner Kieffer. » Mais ce nom était tellement emblématique que finalement, la marine a accepté, le service historique de la défense a accepté. Et donc, les autres commandos étaient nommés à partir d'officiers qui étaient morts lors du débarquement, le lieutenant Hubert, qui était d'ailleurs un terrien et pas un marin, Trépel, qui était mort en Europe du Nord lors d'une reconnaissance, Depin Fintegno, qui était né en Bretagne, mais qui était mort en Indochine, et pour la première fois, pour ce nouveau commando de commandement et d'action de nature très différente, on a donné le nom de Kieffer. Et puis, quelques années après, une réorganisation globale des forces spéciales sous l'égide du COS.
Donc le commandement des opérations spéciales.
Le COS, le commandement des opérations spéciales, qui est interarmée, a poussé chacune des forces armées à réorganiser ses forces spéciales dans le sens d'une plus grande intégration. La nécessité de la protection du secret imposait qu'on ait certes recours à des moyens des différentes armées, des moyens spécialisés ou non, mais d'avoir des soutiens directs au plus proche des opérations, qui eux soient bien intégrés aux forces spéciales. Et donc, on a créé plus récemment le commando Pontchardier, du nom d'un officier qui était brillant en Indochine, pour rassembler des mécaniciens, des électriciens, des électroniciens, etc., qui assurent le soutien des opérations et qui aujourd'hui montent en première ligne. À ce jour, il y a à peu près 800 personnes dans les forces spéciales mères, mais sur les 800, il y en a environ 30% qui ne sont pas des fusiliers marins commandos et qui pourtant montent au combat en première ligne.
Alors, c'est très intéressant puisque ce sont des commandos marines, comme vous venez de le dire. Ce sont des fusiliers marins commandos. Enfin, en général, ce sont des marins, d'une manière générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas toujours déployés en mer. C'est-à-dire, notamment, un de leurs théâtres d'opérations centraux depuis plus de 15 ans maintenant, c'est notamment l'Afghanistan, où l'armée française se sert énormément des commandos marines. Alors, c'est évidemment un témoignage de leur excellence, qui sont très très bons à faire ce qu'ils font. Mais pas que, je pense que ça dit aussi quelque chose de ce qu'est le métier, et de ce que la mer, ce que la formation marine vous apprend. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous formuleriez, disons, cette variété de déploiement de commandos marines, mais aussi à terre, loin des lignes, ailleurs, quoi?
Alors, si vous le voulez bien, je vais aller du général au particulier. Je vais vous décrire un petit peu la spécificité du paysage des forces spéciales françaises pour en venir progressivement aux marins et à leur mission. Nous avons des forces spéciales dans les trois armées et elles sont toutes de qualité remarquable. Elles partagent des savoir-faire communs, tout ce qui est commando en général, la capacité d'infiltration discrète, d'utilisation des armes, tirer en faisant une roulade, utiliser des explosifs, faire une photo à distance, transmettre des informations et attendre le top d'une opération à H-1, H+1, plus ou moins une minute, etc. Ça, c'est le fond commun. Ensuite, chacune des armées a des spécificités. Dans l'armée de terre, leur force, c'est le groupe, c'est de faire partie d'une entité plus importante, même si les forces spéciales sont la pointe de diamant. Dans l'armée de l'air, qui est une armée très technique, les forces spéciales dominent plus particulièrement tout ce qui est technique et aéronautique, guidage d'avions, de drones, etc. Dans la marine, la spécificité tient au fait que un commando marine, avant d'être dans les forces spéciales, est un marin. C'est-à-dire que son domaine de formation initiale, c'est la mer. Et en mer, on ne se cache pas derrière un bosquet, tout dure longtemps, tout se passe lentement, et si vous n'êtes pas bien préparé, vous ne pouvez pas réagir. Si vous n'avez pas prévu la tempête, ce qu'on fait dans telle ou telle situation, vous subissez. L'environnement a une emprise, une importance encore plus importante pour un marin que pour un autre. Et donc, ça forge des caractères particuliers. Je vous donne un exemple qu'on comprend très facilement. Quand un groupe tombe dans une embuscade, dans l'armée de terre, ce qui est important, c'est le groupe. Donc tout le monde reste ensemble. On fait la boule de feu, on monte à l'assaut, on renverse ceux qui vous tournent l'embuscade, et puis on gagne comme ça. Dans la marine, c'est pas du tout le cas. On tombe dans une embuscade, chacun part à gauche, à droite, etc. Et puis on a un point de rendez-vous 6 heures devant, et puis un autre 24 heures encore plus en avant, ou sur le côté ou derrière, on se retrouve, et là on se reconfigure et on repart. Vous voyez, l'état d'esprit différent. Si vous voulez remplir une mission qui est nette, carrée, etc., donnez-la aux forces spéciales de l'armée de terre. Si vous la donnez à des marins, l'aspect quelquefois un peu routinier, etc., ne leur plaît pas, ils seront pas très bons. Si vous voulez remplir une mission impossible, donnez-la à un marin et il vous la remplira comme il faut. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on engage les marins un petit peu partout, notamment dans des endroits qui sont difficiles, des ouvertures de portes, etc. L'environnement maritime ne pèse pas tant que la dimension psychologique, la préparation spécifique qui lui permet d'affronter des choses différentes et inattendues.
Ouais, mais alors c'est intéressant. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous pensez comme militaire? Je précise. Ce que je veux dire par là, c'est que commando, en même temps, c'est exactement le rôle du militaire, en sens du service, sens du dévouement jusqu'au sacrifice, donc vraiment poussé à l'extrême, quoi. Et en même temps, quand on y réfléchit, c'est aussi exactement le contraire du quotidien du militaire. C'est-à-dire, on est justement, au contraire, on va derrière les lignes, on est isolé, on est loin de ses bases. Donc voilà, comment est-ce que vous imaginez votre rôle et votre métier par rapport à tout ce qui fait le commun, voilà, du métier de militaire, qui est, quand on est marin, c'est généralement d'être sur un navire, voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un militaire? C'est quelqu'un qui porte les armes de la nation pour défendre, pour certains, sa patrie, son pré carré, ça c'était encore très vrai pendant la Première Guerre mondiale, sans doute encore pendant la Seconde, pour porter aussi des idées, pour porter des valeurs, parce qu'on estime qu'on a la chance d'avoir hérité d'un certain environnement, et on voudrait pouvoir non seulement le léguer à ses enfants, mais faire en sorte que cet environnement de paix, de respect, etc., se généralise, gagne un petit peu sur Terre, etc. Bon. Et donc, à ce titre, on porte les armes de la nation. Ensemble, avec d'autres, on ne possède pas la vérité à titre individuel. C'est collectivement la nation, à travers ses soldats, qui sont engagés sur des théâtres d'opération, défend ses idées, des positions. Et c'est encore plus vrai quand on fait partie d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça donne des droits, ça donne également des devoirs. Avec un pareil engagement, le soldat fait partie d'un tout, et c'est au titre de ce tout qu'il est engagé. Et donc, quand vous êtes dans une section d'infanterie, quand vous êtes barreur à bord d'une frégate, c'est avec l'unité que vous allez porter tout ça, toutes ces valeurs, y compris quand on déploie le feu, et quelquefois, quand on le subit. Dans les forces spéciales, on a les mêmes valeurs fondamentales. C'est indéniable, et d'ailleurs sinon on n'aurait pas sa place dans les armées françaises, mais on est prêt à agir différemment, à agir sur un théâtre à 3, 4, quelquefois tout seul, là où ailleurs on enverrait un bataillon de 400 personnes. Et donc cela nécessite de développer des talents particuliers et d'avoir des équipements différents. Les talents particuliers, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, par exemple, ce que les Britanniques, inventeurs des forces spéciales, appellent « versatility », et qu'il ne faut surtout pas traduire en français par « versatilité », qui est un défaut. La « versatility » britannique, c'est la capacité à comprendre l'environnement, à se souvenir de la raison ultime de son engagement, et donc, à partir de là, à sentir l'apparition de signaux faibles qui vont vous pousser à changer de comportement, à changer de mode d'action instantanément. Et donc vous pouvez être dans une action de vive force et instantanément basculer vers quelque chose de beaucoup plus commun, de beaucoup plus habituel, ou inversement, et là c'est plus facile évidemment, de passer d'une situation où on discute à celle où on sort une arme et on tire. Ça c'est à la portée de quasiment tous les militaires. Mais donc, vous voyez, on a besoin de développer des capacités particulières de façon à pouvoir passer de façon plus naturelle dans des théâtres, dans des situations particulières.
Oui, ça, donc vous vous percevez en continuité totale, mais en, disons, diversité de modes d'action, quoi.
Pas uniquement de modes d'action, également de perception, de compréhension. Je vous donne un exemple. Le chef d'état-major des armées m'a déployé seul, dans Bagdad du temps de Saddam Hussein, juste avant ce que certains ont appelé la Seconde Guerre du Golfe de 2003, pour faire du renseignement. Bah, j'étais tout seul, j'allais me balader à Saddam City, au milieu des chiites, où je les interrogeais. Ils voyaient bien, avec mon arabe, que je n'étais pas un Irakien, avec mon accent, avec mon comportement, etc. C'était évident tout de suite. Mais je les comprenais suffisamment de l'intérieur, je leur parlais avec suffisamment de cœur pour que finalement ils me répondent à des questions qui étaient anodines et puis qui dérivaient progressivement et qu'ils ne m'écharpent pas pour finalement apprendre un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est quelque chose qui est donné à quelqu'un des forces spéciales. Il s'y prépare pendant des années dans les forces plus conventionnel, évidemment, on ne peut pas préparer tout le monde à ce genre de mission.
Du coup, c'est le bon moment pour vous demander comment on s'y prépare. C'est quoi le quotidien d'un commando ? J'imagine bien que vous passez pas toute l'année, que les commandos passent pas toute l'année dans les montagnes d'Afghanistan, qu'ils passent essentiellement leur temps à Lorient, à Saint-Mandrier, comme vous le disiez, à se préparer. Mais voilà, c'est quoi ? Est-ce que vous pourriez nous faire pénétrer peut-être un peu avec ce qui fait l'ordinaire et le quotidien des commandos marines ?
Le quotidien du commando, c'est d'abord la formation. Vous disiez tout à l'heure que j'étais nageur de combat. Pour faire un nageur de combat, il faut à peu près 5 ans. 5 ans de formation en tout genre. Formation individuelle, qui est d'abord physique, qui est également... Bon, physique, tout le monde comprend. On court, on pousse de la fonte, on fait du sport collectif, etc.
Vous nagez, j'imagine.
On nage beaucoup. Les commandos marines passent, je crois, 40% de leur temps à la surface de l'eau ou sous l'eau. Donc, on est beaucoup dans l'eau, effectivement. Formation psychologique. Comme je disais tout à l'heure, peu à peu, on met une pression croissante sur chaque personne de façon à l'habituer à œuvrer dans des situations qui ne sont pas confortables, non seulement pour qu'il continue à faire le bon geste, mais également pour vérifier qu'il réfléchit bien, qu'il n'y ait pas de blackout. Donc, on fait en sorte qu'il a faim, qu'il ait froid, qu'il soit fatigué, qu'il soit mouillé, qu'il ne sache pas ce qui va se passer à la minute d'après ni l'heure d'après, etc. On le fait sauter dans le vide, il ne sait pas ce qu'il y a en dessous, que sais-je encore. Bon. Et donc, comme ça, on le met dans des situations où il apprend à maîtriser ses pulsions, ses peurs, toute cette dimension psychologique. Et c'est particulièrement important. La formation, c'est également quelque chose de très technique. Pour mettre une balle dans une assiette de table à 500 mètres, il faut apprendre à faire des tas de choses progressivement. Pour faire une photo où on reconnaît une personne à 1000 mètres, c'est la même, dans un environnement très mouvant, c'est la même chose. Fabriquer une enveloppe avec laquelle, en l'ouvrant, on va perdre 3 doigts ou perdre la vie, vous imaginez que c'est assez technique également. Voilà. Dans toutes sortes de domaines, le parachutisme, la plongée, le maniement de toutes armes, on apprend des choses particulièrement techniques. Puis on les apprend dans un état de fatigue ou je parlais tout à l'heure de tirer en faisant des roulades, c'est une image, mais dans des conditions physiques particulières, et se superpose à tout ça la dimension psychologique que j'évoquais. Donc on fait tout ça avec les personnes, et ensuite on fait tout ça de façon collective, de façon à ce que chacun des commandos fasse ce qu'on attend de lui, voire fasse autre chose, parce qu'on attend beaucoup d'initiatives de la part des commandos, pas simplement d'exécuter, mais d'obéir. Il y a une grande différence entre exécuter et obéir. On lui demande d'être capable de faire tout ça, non pas de la façon la meilleure pour lui, mais la meilleure pour le groupe dans lequel il est. Voilà. Enfin, la formation a une autre dimension qui me paraît essentielle, c'est celle de l'apprentissage de l'éthique. Et ça, ça fait partie de la formation. L'apprentissage de l'éthique, qu'est-ce que c'est ? C'est, on me demande de remplir telle mission, pour le faire, il faut que je tire sur un barbu qui a une arme et dont j'ai vu qu'il avait tiré sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est facile, peut-être pas, parce que tirer sur quelqu'un, c'est jamais facile. Mais en tout cas, ça rentre dans un cadre qui est très clair. On a le choix entre le bien et le mal. C'est toujours facile de choisir entre le bien et le mal. On fait, on ne se pose pas de questions. Après, on s'en pose, mais sûrement pas dans l'action. En revanche, il y a des situations où on a à choisir entre deux biens de nature différente ou, pire, entre deux mots de niveau différent, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça s'apprend, ça. Je vous donne un exemple. On demande à un chef d'escouade des commandos marines de tenir un village, un pont, le temps qu'un convoi passe, parce que c'est essentiel pour la manœuvre générale de l'armée, donc on va l'infiltrer, il devra tenir ce village. Bon, c'est pas très compliqué. On poste quelques personnes.
Ça a l'air très compliqué quand même.
Oui, peut-être, mais bon, dans le manuel d'infanterie, c'est assez simple. On poste des hommes qui surveillent les points clés, on tient certains points, et puis voilà. Dans un exercice, on peut faire en sorte que, tout d'un coup, il y a des femmes et des enfants qui viennent partout et qui vous empêchent de voir ou qui vous empêchent de tirer. Et puis, vous essayez de rendre compte à vos chefs. Et puis, comme par hasard, la radio ne marche plus très bien, puis ne marche plus du tout. Et puis, progressivement, vous en arrivez au point où, pour remplir votre mission, il faut, pourquoi pas, en arriver à détruire complètement le village. Alors, votre mission est stratégique pour l'armée française, pour l'engagement d'un point de vue politique, pour l'engagement sur tel théâtre, mais d'un autre, pour la remplir, il va falloir faire quelque chose qui vous pose un sérieux problème de conscience. Qu'est-ce que vous faites ? Et il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a l'élaboration au cours de toute une carrière d'une réflexion sur pourquoi est-ce que je me suis engagé, qu'est-ce que je souhaite défendre, pour ça jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, la mission, mes hommes, le fait de pouvoir me regarder dans la glace le matin. Voilà, tout ça a son importance et les réponses, en fait, c'est à vous de l'élaborer. Et donc, pour en revenir à la question initiale, quel est le quotidien d'un commando ? C'est tout ça. C'est, quand j'étais au commando Hubert, les nageurs de combat, 8 heures de sport par jour, mais de sport intelligent, de sport très technique, de sport où on se pose des questions majeures, où on essaye de développer des nouveaux équipements. Vous voyez, c'est quelque chose de très complet. C'est également des heures, quelquefois des semaines, à préparer une mission. Tiens, quelles sont les spécificités techniques de telle ville, de telle culture, de telle maison, de tel navire de commerce. C'est comprendre l'environnement politique dans lequel on va être déployé pour la mission qu'on prépare. C'est mettre le bon bout de scotch au bon endroit pour que, quand on va monter depuis un Zodiac qui tressaute sur les vagues à bord de la cible, on soit sûr de ne pas perdre son chargeur, son arme de poing ou que sais-je encore. C'est tout ça, l'entraînement d'un commando marine. Et bien sûr, de jour comme de nuit, et à 40% du temps, dans l'eau.
Ouais. Du coup, j'aurais envie de vous demander, puisque vous venez de le dire, ça prend 5 ans de faire un commando.
Un nageur de combat, oui.
Un nageur de combat, pardon. Donc Hubert, comment est-ce que vous êtes passé de l'entraînement à... Enfin, je vais vous poser la question comme ça, et vous allez me répondre de la manière dont ça vous vient. Ça a été quoi, votre baptême du feu ? Ça n'a pas besoin d'être la première fois que vous avez tiré sur quelqu'un ou quoi. Hein. C'est simplement, c'était quoi l'événement que vous considérez comme votre baptême du feu et comment est-ce que vous l'avez ressenti ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Parce que c'est pas rien d'être déployé pour de vrai, pour la première fois.
Tirer sur une personne n'est jamais anodin. Pour autant, il y a des moments où on fait des gestes techniques et des moments où on a du recul. Dans les forces spéciales, on vous apprend à décortiquer les choses les plus complexes et à les transformer en une succession de phases, voire de microphases, où chaque geste est simple, et ce qui est compliqué, c'est la succession et l'accumulation, de chacune de ces phases. Et donc, une des façons de définir les forces spéciales, c'est bien qu'elles sont capables d'accumuler un nombre de phases plus important que des forces conventionnelles, et également dont certaines ont une complexité particulière, ou touchent à des domaines très particuliers. Quand on ouvre le feu, on est dans une de ces phases, où il y a une raison de tirer, il n'y a pas de question à se poser, car si on ne tire pas, on se fait tirer dessus, ou bien c'est un des camarades à côté de nous qui va tomber, ou bien c'est une tierce personne à côté, un civil, un passant, qui risque sa vie. Et donc, vous pointez l'arme, vous appuyez sur la queue de détente. Personnellement, la première fois que ça m'est arrivé, c'est au Rwanda, mission humanitaire, turquoise, 1994. On était là pour des raisons humanitaires, sur mandat de l'ONU, pour s'interposer dans des massacres.
On va rappeler les massacres entre Hutu et Tutsi de 94. Quoi.
C'est ça. En avril 1994, des massacres ont commencé, principalement des massacres de Tutsi par des Hutus, mais il y a eu également de nombreux massacres de Hutus par d'autres Hutus. Et donc, la mission était de s'interposer quand il y avait des massacres et de créer des conditions de sûreté permettant de déployer l'aide internationale, puisque les personnes mouraient de faim, mouraient de maladie, mouraient de sévices et mouraient pour certaines, je l'ai découvert alors, également de désespoir. Et donc, ce faisant, un jour, on arrive dans un village, il y avait des coups de feu, on voit des personnes partir en courant en lançant des grenades contre la foule. En l'occurrence, c'était des personnes qui étaient venues, qui avaient volé de la nourriture, encore une fois dans un environnement où les gens mouraient de faim, au sens littéral du terme, et donc avaient volé les dernières réserves de nourriture, s'enfuyaient, lançaient des grenades pour protéger leur fuite. Nous avons nous-mêmes ouvert le feu pour les arrêter. Elles se sont réfugiées en haut d'une colline et ont ouvert le feu sur nous à l'arme automatique. On a fait ce qu'on apprend dans le manuel du fusilier marin. Je fixe, je déborde, je prends d'assaut, je fouille, je tombe en garde. Et ce faisant, j'ai eu l'occasion d'ouvrir le feu. Voilà. Ça ne m'a posé aucun problème sur le moment. En revanche, et je pense que c'est important que j'ajoute tout de suite cela, si, quand c'est nécessaire, on le fait, dans les forces spéciales, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas tirer. Voilà. Et ça me paraît très important. Et du coup, je vous donne une deuxième réponse qui s'est passée environ une semaine plus tard. Toujours au Rwanda, on nous a demandé d'aller chercher des orphelins dans la deuxième ville du pays, Butare, et de les exfiltrer vers le Burundi, peut-être une centaine de kilomètres au sud, à travers des pistes africaines qui n'étaient pas en bon état. 800 orphelins dans des autobus, et j'avais avec moi, une grosse poignée de commandos marines pour le faire. Et donc, j'en ai mis quelques-uns pour ouvrir le convoi, quelques-uns à la fin pour le fermer, et je me suis mis dans mon véhicule dans lequel nous étions quatre, au milieu. Alors qu'on cheminait, au bout d'un certain temps, une barrière s'est fermée devant le bus qui était juste devant notre voiture. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Des miliciens, il y en avait partout, ont dit « Non, vous ne passez plus ». Et donc, j'ai demandé au conducteur de la Jeep dans laquelle j'étais de passer sur le côté du bus, d'aller jusqu'à la barrière fermée. Il y avait une centaine de miliciens, Hutus, qui nous empêchaient d'exfiltrer ces 800 orphelins Tutsis. Et ils ont dit « Il n'en est pas question ». Alors bon, on était quatre, ils étaient une centaine, que faire? Ma réaction, là aussi, a été instinctive et le fruit d'années et d'années d'entraînement. J'avais mon pistolet mitrailleur à la main, je l'ai mis dans le ventre du chef de poste, j'ai approvisionné l'arme, clac-clac, c'est-à-dire que j'ai mis une balle dans le canon, je l'ai regardé au fond des yeux, je lui ai dit « je vais compter jusqu'à 3 », et à 3, la barrière sera ouverte. 1. 2. Il a donné l'ordre d'ouvrir la barrière. Entre-temps, les 100 miliciens avaient dirigé leurs armes vers moi et vers les trois autres commandos marines qui étaient dans le véhicule. Eux-mêmes avaient pointé leurs armes et chacun se demandait ce qui allait se passer. Je vais vous dire, je ne me suis pas posé la question. Rationnellement, ça aurait été une ânerie de tirer, ça aurait été conduit à un carnage. Et pourtant, je sais bien que je l'aurais fait. Et c'est parce que celui que je regardais au fond des yeux a bien senti que de toute façon je le ferais, qu'il a donné l'ordre de lever la barrière. Voilà. Les forces spéciales, c'est ça aussi. C'est la détermination. On sait pourquoi on est là. Et on sait pourquoi on est prêt à donner notre vie. Si vous m'y autorisez, je voudrais ajouter un mot. Je voudrais ajouter un mot parce que dire ça, ça peut paraître être particulièrement prétentieux. Quand je raconte pas ça très souvent, mais quand je le dis, on me dit que c'était très courageux, etc. En toute honnêteté, je pense qu'il n'y avait aucun courage de ma part là-dedans. C'était une évidence pour moi. C'était une évidence. Et ça m'a demandé beaucoup moins de courage que pour bien réagir quand j'ai eu trois accidents de parachutisme, pour bien réagir à la fraction de seconde, etc. Là, j'ai eu besoin de courage. J'ai eu besoin de courage pour aller aider des camarades qui étaient en situation dramatique. J'ai eu besoin de beaucoup de courage pour m'opposer à un chef d'état-major des armées ou à un président de la République. Ça, c'est du vrai courage qu'il faut. En revanche, dans ces situations tactiques, non. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un chirurgien qui est face à quelqu'un, le ventre ouvert sur la table d'opération. Il se dit pas, le gars, il est en train de crever ou quoi que ce soit. Il fait des gestes techniques, du mieux qu'il peut, et c'est comme ça qu'il sauve la personne.
Ouais, mais ça pose, comment dire, au plus proche, quoi, la question de ce que c'est qu'être combattant et ce que c'est de se trouver au cœur du feu, quoi. Est-ce que... C'est intéressant, cette question de courage. On avait parlé déjà avec le colonel Hervé Pierre, où il disait, il y a des moments où ça, enfin, on réfléchit pas, quoi. C'est quand on revient après, quand on se pose, qu'on souffle, qu'on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que... Enfin, c'est intéressant.
Je vais vous donner un bel exemple de courage. Toujours au Rwanda, avant les deux autres affaires que je vous ai racontées.
C'était votre premier déploiement, le Rwanda ?
Non, j'avais... Enfin, déploiement, j'avais déjà été, du temps de la guerre froide, infiltré au Liban pour aller faire des reconnaissances. J'avais participé à d'autres opérations. Mais le Rwanda, c'est la première fois que le tout nouveau commandement des opérations spéciales français, donc organisme de commandement interarmé, était déployé en interarmé, et ce, au vu et au su de tout le monde. Donc c'était une opération un peu fondatrice pour les armées françaises et pour ces forces spéciales. Donc nous y étions depuis quelques jours.
Je vais rester là-dessus, c'est étonnant, parce que c'est pas qu'il n'y a pas pire, mais... Ainsi un peu, en termes de violence ouverte, en termes de... déchaînement, enfin, y compris avec des civils, puisque c'était essentiellement des civils, quoi. Des miliciens, certes, mais bon, des miliciens, c'est des civils, fondamentalement. C'est quand même... est-ce que vous dites parfois que ça a été... que ça a influencé tout le reste de votre carrière, ce premier déploiement-là, quoi ?
Quand je suis rentré de cette opération, au bout de, je sais pas, peut-être un mois et demi, j'étais très fortement déstructuré psychologiquement parce que la violence destructrice agresse l'homme au plus profond, et on en a été témoin. Quand on a pu, on a agi, mais au départ, on voyait les conséquences de la violence, mais on ne la voyait pas elle-même, donc on la subissait, et psychologiquement c'est très difficile.
Ouais, on sait que beaucoup de soldats français ont très mal vécu, notamment à découvrir les charniers. Et il y a eu énormément de blessés psychologiques.
J'y reviendrai après. Donc dans cette mission, j'ai vécu 36 heures très difficiles dans un lieu qui s'appelle Bicécéro, où pour la première fois, les armées françaises alors déployées ont pu assister à... ce qui se passait quand des personnes se découpaient à la machette et se sont interposées immédiatement. Il se trouve que le premier à avoir vu ça est un officier du 13e RDP qui était sous mes ordres, qui m'a appelé à la radio et j'ai accouru avec tout le reste des forces sous mes ordres pour qu'on puisse s'interposer, séparer, pas les belligérants, mais séparer les salopards qui tuaient des victimes tutsis, sécuriser la zone, etc. Les 36 heures que j'ai vécues alors constituent pour moi l'essentiel de ma carrière. Quand je suis rentré, je me souviens avoir dit à un journaliste de West France, si pour le restant de ma carrière, on ne me demande plus que de garder des dépôts de poubelles dans les arsenaux français, ma carrière aura eu un sens, aura valu la peine.
Je suis désolé, je vous ai interrompu. Vous étiez sur le point de me raconter une histoire sur ce qu'est le courage, pour vous, lié à ce déploiement au Rwanda.
Alors effectivement, je voulais donner un exemple de ce que peut être le courage. Il y a de multiples formes, hein. Mais au Rwanda, avant les différents épisodes que j'ai eu l'occasion de raconter, au cours de la toute première semaine où nous étions là, nous avons pu constater... avec la cinquantaine de commandos marines, officiers du 13e RDP, transmetteurs du 1er PIMA qui étaient sous mes ordres, et on travaillait en symbiose, et vraiment c'était des moments très forts, parce que dès le départ on a vu qu'il s'était passé des choses dramatiques, on a compris que chacun essayait de nous manipuler pour nous pousser à comprendre des choses qui n'étaient pas, à faire des actions qui n'étaient pas... sans doute celle pour laquelle les Nations Unies et la France nous avaient déployés. Donc, on vivait des moments très forts, mais très difficiles aussi, et on voyait les résultats d'une violence qui s'était abattu avant qu'on arrive, avant qu'on soit sur place. Et c'était, comme je vous le disais, particulièrement déstructurant. Et un matin, un officier marinier du commando Trépel, le maître Coffinet, je donne son nom parce que c'est un héros, est venu me voir en me disant « Commandant, j'étais capitaine de frégate à l'époque, commandant, vous savez, moi j'arrive pas à dormir, je revois toutes ces horreurs et vraiment j'y arrive pas, c'est infernal, etc. » L'après-midi même, c'est le jour où on a mené l'assaut que je vous ai raconté tout à l'heure avec ma première ouverture du feu sur un théâtre d'opération. Et après cette opération, une des personnes sur lesquelles on avait tiré, qui avait reçu à 400 mètres 3 balles de FAMAS dans le corps, mais qui était encore bien vivant, on a essayé de le sauver. Et donc, on a fait les premiers gestes que l'on pouvait. J'ai appelé un hélicoptère pour l'évacuer, etc. Mais finalement, le temps que l'hélicoptère arrive, ce pauvre homme était mort. Pauvre homme, il avait lancé des grenades sur la foule. Mais bon, si on avait pu le sauver, ça aurait été encore mieux. Pendant qu'on essayait de gérer tout ça, la foule s'était mise autour de nous. Et tout d'un coup, un homme fend la foule et fonce sur le maître Coffinet. Maître, c'est le nom du grade, hein, sergent-chef de l'armée de terre. Fonce sur le maître confiné, une machette levée, et s'apprête à le fendre en deux, lui fendre le crâne. Le maître Coffiné avait son arme à la main. Ce que n'importe qui aurait fait, ce que j'aurais fait, c'était lever le canon de l'arme de quelques centimètres, appuyer sur la queue de détente et supprimer la menace. Le maître Coffiné a, en une fraction de seconde, vu combien cet homme était dangereux, mais vu également que derrière lui, il y avait la foule, que s'il tirait son arme étant, j'imagine, sur rafale à ce moment-là, puisqu'on sortait d'un assaut, aurait très vraisemblablement blessé et tué d'autres personnes, il a fait le choix, dans cette fraction de seconde, de pousser son arme sur le côté pour qu'elle ne le gêne pas, de faire le geste pour parer le coup de machette, et je peux vous dire que les Rwandais sont habiles au maniement de la machette, et de maîtriser cet homme. En une fraction de seconde, c'est devenu un héros. Mais pour devenir un héros comme ça, pendant 10 ans, il a répété dans tous les cours d'arts martiaux, de self-défense, etc., il a répété le geste de parer un coup de haut en bas. Pendant des heures et des heures, la nuit précédente et celle encore avant, il avait eu l'occasion de mesurer la puissance destructrice de la violence, de la souffrance. Et c'est tout ça qui l'a poussé, en une fraction de seconde, à faire le choix de devenir un héros. Ça, c'est du courage. Mais le courage, c'est pas toujours quelque chose qui se mesure, qui se pèse, etc. C'est le fruit d'un engagement de toute une vie.
Door, release and lock, ghost, the past is down.
maintenant, si on prend un peu de recul par rapport à ces histoires de déploiement que vous nous racontez et qui nous font... Je veux dire, c'est difficile de pénétrer plus au cœur du quotidien des forces spéciales que ce que vous venez de nous raconter. J'aimerais... Comment dire, ça fait 40 ans de carrière que vous avez. Comment est-ce que ça a changé la profession, la vocation, le métier de commando marine? Vous avez commencé à la fin des années 70, on l'a dit. J'imagine que le matériel était très différent, mais j'imagine que les hommes aussi étaient très différents à cette époque-là. Voilà, comment est-ce que les personnels et comment est-ce que ce qui fait la vie d'un commando marine a évolué depuis?
Vous disiez que j'ai passé une quarantaine d'années dans la marine et plus particulièrement dans les forces spéciales. Quand j'y suis rentré, on recrutait des paysans trappeurs. Aujourd'hui, on a plutôt des citadins rappeurs. Alors, au-delà du bon mot qui n'est d'ailleurs pas de moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a 40 ans, le commando marine, c'était un fils de pêcheur, c'était un fils de paysan qui avait l'habitude d'une vie particulièrement rustique, qui était endurant, et qui avait de la volonté, qui se posait pas de questions inutiles et qui allait de l'avant. Et c'était nécessaire, et c'est ce qui nous a permis de construire cette très belle boutique qui est aujourd'hui, que sont aujourd'hui les commandos marines. Mais aujourd'hui, effectivement, les besoins sont différents. Le combat, la plupart du temps, n'a pas lieu en rase campagne entre deux kékés. Il est rare qu'on fasse un débarquement sous le feu de l'ennemi. Enfin, pour ma part, j'en ai pas vu depuis que je suis militaire. En revanche, on circule dans des grandes villes et en général plutôt dans des banlieues, la plupart du temps un peu délabrées. On circule soit en force, soit beaucoup plus discrètement. La plupart du temps en uniforme, quelquefois en civil, tout en étant des soldats français. Hein. Les forces spéciales ne sont pas des clandestins. Mais quelquefois, le secret impose une discrétion qui impose des vêtements civils. Bref, on a besoin de faire des choses beaucoup plus soft. Comme je disais tout à l'heure, on fait du soft kill plutôt que du hard kill à chaque fois que l'on peut, en utilisant des moyens électroniques. Et donc, du coup, on recrute beaucoup plus volontiers des jeunes issus des banlieues qui savent parfaitement maligner la télécommande, l'ordinateur, la PlayStation ou que sais-je encore, mais qui en revanche, quand on le prend au début et qu'on le trempe tout mouillé dans l'eau, perd tous ses moyens. Et donc du coup, pour le former, on commence par le rendre plus endurant, plus rustique, et on y arrive parce que l'homme, c'est l'homme. Ce qui fait un bon commando marine, c'est la volonté. Et je peux vous dire que dans nos banlieues, dans la population française en général, on trouve des personnes aussi belles, aussi endurantes, aussi volontaires que par le passé. Et donc, une fois qu'on les a rendues un peu plus rustiques, on tire profit du fait que ce sont des digital natives qui sont beaucoup plus à l'aise avec tous ces instruments qu'on utilise aujourd'hui.
Alors maintenant, pour commencer à clore ce podcast... J'aurais aimé... Bon, tout le monde sait qu'on a parlé énormément, souvent pour dire toujours la même chose, d'ailleurs, du commando Hubert récemment, avec la mort de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello au Burkina Faso. Comment est-ce que, quand vous l'avez apprise, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est pas le quotidien, c'est pas le métier, mais c'est le risque. Ce qui leur arrivait pour un soldat français, mourir sous le feu ennemi, ça fait partie du métier, en tout cas potentiellement. Qu'est-ce que vous avez pensé, disons, à la fois de cette disparition, de cette mort tragique, et de ce qu'on en a fait, de la réaction, y compris très émotionnelle, qu'a eu la population française par rapport à ces deux disparitions?
Je voudrais rendre un hommage appuyé à nos deux camarades qui sont partis, mais plus encore aux deux jeunes femmes qu'ils ont laissées derrière eux. Un hommage appuyé parce que tout ce que nous faisons dans nos engagements n'est possible que parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, mais également parce que nous avons une base arrière à la maison solide. Et ceux qui n'ont pas cette base arrière ne peuvent pas durer dans un métier aussi exigeant, où on vise toujours l'excellence, mais où on donne tellement de soi-même qu'on s'épuise. On a besoin de se ressourcer, on a besoin également de reprendre des points forts psychologiques. Quand vous revenez après avoir été témoin, après avoir été acteur dans des situations d'horreur, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin aussi de vous réadapter à un environnement où les seules difficultés, c'est de réparer la machine à laver qui fuit, d'aller voir le maître d'un de vos enfants qui vous dit qu'il est turbulent à l'école, de faire des choses qui vous paraissent dérisoires après tout ce que vous avez vécu, mais qui pourtant doivent continuer à faire l'objet du quotidien, de votre quotidien, et puis de celui d'une épouse, d'une compagne, quand c'est une femme qui ne revient pas de son époux, de son compagnon, qui, eux, doivent jongler en permanence entre un conjoint qui se donne à fond pour son métier, qui s'entraîne de jour, de nuit, le week-end, qui part sur coup de fil et qui l'abandonne avec les enfants, avec les difficultés, les impôts à remplir et tout ça, qui, bien souvent, dans l'émission actuelle, ne donne pas de nouvelles parce que là où il est, il n'a pas le droit d'entrer en communication, et puis qui rentre chargé psychologiquement de toutes ces horreurs. Voilà. Sans nos épouses, on ne saurait pas faire ça. Donc, quand j'ai appris le départ de ces deux camarades, je me suis dit que eux, au moins, avaient eu la chance de donner un sens à leur engagement, et que le plus dur, c'était pour les deux compagnes. Un sens à leur engagement, on ne s'engage pas pour se faire tuer, personne ne le fait. En revanche, on sait que ça fait partie des risques du métier. On fait tout pour minimiser ce risque à titre individuel et les chefs en faire leurs subordonnés. Tous les chefs le font. Personne n'engage ses hommes de gaieté de cœur. Et plus on vieillit, moins on a envie de les engager, parce que plus on sait l'importance de la vie d'un homme. Mais voilà, on accepte une part de risque, on la court, et une fois de temps en temps, ça se passe mal. Ça ne veut pas dire que les choses ont été mal préparées, mal dirigées. Ça fait partie des impondérables. Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu le départ de ces deux camarades nageurs de combat. Maintenant, comment est-ce que la nation a réagi ? Pour ma part, j'ai fait un parallèle entre ce qui s'est passé à ce moment-là et la façon dont tous les Français se sont réunis quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Alors qu'on est dans une période d'individualisme forcené, où chacun voit midi à sa porte, où parce qu'une chose est vraie pour moi, ça devient ma vérité, où on vit dans une intersubjectivité et non pas sur dans un monde où il y a quelques grandes vérités et puis après on fait au mieux en fonction de ça et en fonction des uns et des autres. Dans un monde où chacun se bat pour demander, voire pour exiger ses droits sur les places publiques, etc. Là, ça fait partie de ces occasions où tout le peuple français se réunit en une occasion derrière deux personnes et retrouve une fraternité, un sens commun, un sens du bien commun. Je trouve que c'est extraordinaire. Et donc, bien sûr, je regrette au plus profond de moi-même le départ de ces deux camarades, mais je trouve bien la façon dont mes concitoyens ont réagi. Je vous remercie.
Mais ce coup de projecteur, bon, une occasion évidemment dramatique, ça pose aussi la question de l'invisibilité au quotidien, en fait, pour vous, pour tous ceux qui font ce métier. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vivez le secret, l'invisibilité? Comment est-ce que vous la concevez? C'est-à-dire le fait que vous faites des choses exceptionnelles quand vous êtes commando, quand vous êtes force spéciale, mais dont non seulement personne ne sait rien, mais si ça se passe bien, et la plupart du temps ça se passe bien, personne n'en entendra jamais parler. Comment est-ce que, disons, cette donnée-là entre dans le sens que vous donnez à votre métier?
Il y a deux dimensions au secret. Le premier, c'est que pour arriver à faire à 3 ou à 30 quelque chose que d'autres réussiraient à 300 ou à 3000, quand on n'est pas un surhomme, et je n'ai pas rencontré de surhomme dans ma carrière, on ne peut le faire qu'à travers des techniques et des équipements très particuliers, mais également à travers une discrétion la plus absolue possible. Et donc, le secret est une seconde nature pour les forces spéciales. Et je dirais même plus, ça devient une drogue. Il y a presque une addiction au secret. Parce que secret égale mission exceptionnelle, et on s'est engagé pour mener des missions exceptionnelles. Et on s'est fait mal, on a eu froid, on a eu peur pendant des décennies pour mener ces missions spéciales. Et donc, oui, on a envie de le vivre, ce secret, et en même temps, on sait que si on lâche le morceau, c'est dramatique pour des raisons politico-stratégiques pour notre pays, ou bien pour certains de nos camarades, parce qu'on divulgue des savoir-faire qui doivent rester discrets pour être encore efficients la fois suivante, etc. Donc ça, c'est une première dimension du secret. On arrive à très bien le vivre comme ça. Maintenant, il y a une autre dimension que je vais aborder de l'autre côté. Il se trouve que j'ai eu à commander, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, l'opération de libération des 30 otages du Ponant en océan Indien, alors que j'étais à Fusco. J'étais le patron et il y avait avec moi le...
Donc, rappelons, ça c'est en avril 2008.
En avril 2008, un navire de la compagnie du Ponant est pris d'assaut par des pirates, 30 otages, 21 je crois français et un certain nombre d'étrangers, 8 femmes, jusque-là, tous les États ont abandonné leurs otages ou payé des rançons. Personne n'avait jamais fait d'assaut. Je crois qu'il y en avait eu une fois. Ça avait conduit à un carnage. Bon. Et là, le tout nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, décide que ça ne se passera pas comme ça. Il déploie des forces spéciales. Et en tant que commandant des fusiliers marins commando, il était prévu que ce soit moi qui soit déployé pour assurer le commandement tactique sur place en océan Indien de cette opération. Et très vite d'ailleurs, j'ai été rejoint par celui qui allait obtenir ses 2 étoiles peu après, le général Denis Favier, qui commandait le GIGN à l'époque. Et on a vraiment travaillé la main dans la main d'une belle façon. Ça, c'est l'opération spéciale typique avec laquelle on peut faire un beau film. Je suis à Lorient dans un comité social entre le représentant de la CGT et de la CFDT. En face de moi, une assistante sociale. On parle de choses sociales de la marine à Lorient. Je reçois un coup de fil. 2 heures après, j'étais dans un avion. Une semaine après, dans un autre avion revenant de Djibouti, auréolé de gloire pour avoir sauvé 30 otages. Interviewé par toutes les télévisions, etc. Le contraire du secret. Heureusement, pendant l'opération elle-même, on a pu conserver le secret, car l'opération se passait loin de Djibouti, et les journalistes ne pouvaient pas venir assister à notre préparation, constater le survol des hélicoptères et autres. Mais tout ça a été suivi. Bien entendu, les autorités politiques ont été heureuses de pouvoir exhiber, si j'ose dire, mais il n'y a pas de connotation péjorative dans ma bouche, de pouvoir montrer les otages quand elles sont revenues à Djibouti, puis en France. Et donc, c'est le genre d'opération où on fait des choses extraordinaires, où on sauve 30 vies sans faire un seul blessé, un blessé léger au mollet par ricochet, et où on monte sur un piédestal, on devient un dieu, on se prend pour je sais pas quoi. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que quand on se prend pour un dieu, on perd son humilité et on perd son discernement. Et on devient un mauvais chef et on prend de mauvaises décisions. Et le coup d'après, on n'est pas bon, voire on commet une faute. Et donc, le secret, ça permet d'éviter ça.
Ouais, alors tout ça, ça pose aussi question dont on parle un peu sans vraiment en parler depuis tout à l'heure, qui est celle du retour à la vie normale après une carrière de commando de force spéciale. C'est-à-dire, je veux dire par là, j'imagine bien qu'on continue pas à sauter sur des canaux jusqu'à 70 ans. Donc la question, c'est après avoir été commando, alors vous pouvez parler de votre cas particulier, mais bon, vous avez fini par commander tous les commandos, donc c'est un peu exceptionnel. Mais d'une manière générale, pour les marins et même les soldats plus généralement qui sont dans les forces spéciales, qu'est-ce qu'on fait après avoir été commando?
Être commando, c'est apprendre à être autonome, apprendre à avoir de l'initiative, apprendre à conserver à l'esprit quel est le but ultime de la mission, mais en changeant son comportement, ses modes d'action, etc., comme je l'ai expliqué. C'est faire en sorte que l'environnement qui a le droit de compter sur vous puisse y compter quoi qu'il se passe. C'est apprendre l'humilité, comme je disais, donc, parce que sinon on perd son discernement. C'est apprendre des tas de choses techniques dans des domaines très différents également. Et donc tout ça, ce sont des qualités qui se révèlent très utiles dans des domaines très différents. Et donc j'ai vu des commandos marines qui, souhaitant ensuite revenir à une vie plus normale, plus organisée, ont choisi d'apprendre à aller réparer des machines à laver, comme j'en ai vu d'autres qui ont été PDG de petits groupes, voire de grands groupes. Je pense par exemple à un officier marinier que j'avais quitté, je crois, comme premier maître, donc l'équivalent dans l'armée de terre d'adjudant, et qui ensuite a été responsable au PTT de tout ce qui est Colissimo. Vous voyez, un officier marinier de la marine qui est responsable de Colissimo au PTT, c'est extraordinaire. On voit de tout. On voit de tout dans des domaines très différents. Une chose est sûre, c'est que ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter, qui sont fortes, qui ont une forte volonté, qui savent rendre compte. Et c'est ça qui permet de partir dans des domaines très différents.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Amiral Gillier. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Comme j'ai déjà commencé à l'annoncer la semaine dernière, on va maintenant s'arrêter pendant quelques semaines pour prendre des vacances dont on a bien besoin, avant de revenir à la rentrée. Après, c'est la magie du podcast, c'est-à-dire que vous pouvez encore écouter, réécouter sans fin tous les épisodes qui restent évidemment en ligne. On va d'ailleurs bientôt les mettre progressivement en ligne sur YouTube aussi, dans les prochaines semaines, parce que l'important, c'est évidemment le contenu, et il y a aussi des gens qui ont moins de familiarité avec les podcasts et pour qui ce sera plus facile de l'écouter ainsi. Donc merci à tous, si vous avez la chance d'avoir des vacances, ça peut aussi vous laisser le temps de prendre votre plus belle plume et de laisser un commentaire et une note sur le podcast, sur iTunes. Évidemment c'est une plaisanterie, mais vous savez que ça aide beaucoup à faire découvrir le podcast, et au-delà à diffuser les thèmes, les témoignages, les réflexions que vous y entendez, ce qui est évidemment l'objectif premier de l'aventure. Je profite également de la fin de cette première saison pour faire passer le générique ou les crédits de fin, c'est-à-dire des remerciements aussi larges et exhaustifs que possible, même si je vais évidemment oublier des gens. Alors par ordre chronologique, merci évidemment d'abord à Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer et Jean-Vincent Olindre, mais aussi très largement à Nicolas Bronard, qui ont accueilli et promu cette idée de podcast et qui lui ont donné les moyens de se développer et de se concrétiser. Jean-Baptiste et Jean-Vincent l'accompagnent d'ailleurs au quotidien en participant largement à la programmation des invités. Merci ensuite à trois personnes que j'ai sans doute pas nommées pour l'instant, qui sont Margot Citruc et François Ballot, qui m'ont fourni très généreusement les idées respectivement du titre et du générique de ce podcast, c'est-à-dire d'une bonne partie de son identité, ainsi que Nicolas Segal, qui en a fait le logo. Merci ensuite à toute l'équipe de l'IRSEM qui participe chaque semaine à la mise en ligne et à la valorisation de ce podcast. En premier lieu, Hélène Rollet, Alice Rouquette, qui quitte bientôt l'IRSEM et à qui on souhaite une très belle continuation, ainsi qu'à Constance Perrin, qui est partie il y a quelques semaines déjà. Et merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fourni des idées d'invités ou de thèmes, alors les chercheurs de l'IRSEM, pardon, évidemment, mais pas seulement, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus dans l'émission. Ce sont évidemment eux qui la font bien plus que moi. Merci aussi et surtout à vous tous qui écoutez et relayez le Collimateur. Ça a été un réel plaisir non seulement de produire et d'animer le podcast pendant ces derniers mois, et encore plus de constater qu'il a trouvé un public intéressé et attentif. Et voilà, j'espère vraiment que cette conversation et même cet échange continuera et même s'amplifiera à partir de la rentrée. Je vous souhaite donc un très bel été à tous et je vous retrouverai donc à l'automne pour d'autres aventures, d'autres entretiens. Et on devrait d'ailleurs essayer d'organiser un enregistrement public à l'automne. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça à mesure que ça se précise. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock. Because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.